Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et oui, c'est aussi simple, vous nous appelez et vous vous exprimez, c'est la libre antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix, vous revenez sur les principaux événements de ces derniers jours, c'est l'occasion, si vous le souhaitez, de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment selon vous, en tout cas vous choisissez le contenu de l'émission, c'est à vous de lancer le débat en direct sur l'antenne d'RFI. Je vous cache pas que ce matin vous êtes encore nombreux à réagir à la situation au Burundi où les manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza se poursuivent dans la capitale, des manifestations qui sont encore et toujours réprimées par la police. Hier, au moins 2 personnes ont été tuées par balle. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez pour commenter cette actualité. D'ailleurs, Olivier est déjà avec nous. Il est à Kinshasa. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan Gomez, bonjour.
Vous êtes en République démocratique du Congo, vous ne comprenez pas que Pierre Nkurunziza finalement ne tire pas les leçons de la tentative de coup d'état de la semaine dernière.
Oui, monsieur Gomez, je peux dire que c'est vraiment étonnant, je dirais même que c'est ahurissant de voir l'attitude irresponsable du président burundais. Écoutez, il y a aujourd'hui des milliers de déplacés au Rwanda en République démocratique du Congo.
Et en Tanzanie, 50 000 Burundais réfugiés en Tanzanie.
C'est énorme, on a dépassé le cap des 100 000. Donc c'est une situation qui touche maintenant les autres pays de la région. Il y a eu une tentative de coup d'état manquée la semaine passée. Il y a des manifestants réprimés, il y a eu mort d'homme hier. Mais malgré tout cela, je ne comprends pas l'entêtement du président Nkurunziza, qui sait très bien qu'il n'a pas le droit de se représenter, mais il s'entête pour conserver sa place, même lorsque sa population en pâtit, lorsque la situation de son pays qui est déjà précaire devient de plus en plus instable, il s'entête pourvu qu'il reste au pouvoir.
Alors vous dites,
ça, c'est la première chose que nous...
Olivier, vous dites qu'il s'entête, en tout cas mercredi, Pierre Nkurunziza a assuré que la paix et la sécurité régnaient sur 99,9% de son territoire.
Oui, mais il y a encore quelques jours, il ne savait même pas par où revenir au palais présidentiel. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Il ne savait pas par où revenir. Hein, il a pris du temps à revenir parce que l'aéroport était bloqué. Parce que si ça allait si bien que ça, il serait revenu sans problème alors qu'il venait du sommet des chefs d'État. Il y a des problèmes et ça ne sert à rien de faire semblant parce que de toute manière, même s'il cherchait à s'imposer, ça se retournerait contre lui. Que ce soit à moyen ou à long terme. Mais en plus, là, ce que nous ne comprenons pas, c'est l'attitude de la communauté internationale. Toutes les pressions qui sont faites ici, en République démocratique du Congo, au président Kabila, pour qu'il quitte le pouvoir en 2016, nous ne comprenons pas pourquoi on n'exerce pas les mêmes pressions sur le président burundais.
Mais il y a des pressions. La Belgique, par exemple, a été très claire hier en annonçant qu'elle arrêtera son aide directe en cas de troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Olivier, ne raccrochez pas. On a Jean qui nous appelle du Burundi. Il est à Bujumbura exactement. Bonjour Jean.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler et merci d'avoir le courage de vous exprimer. C'est vrai que vous êtes nombreux à nous contacter du Burundi, mais la très grande majorité d'entre vous ne tient pas forcément à passer sur l'antenne. La grande majorité d'entre vous a peur de donner son vrai prénom. Donc parfois, on le dit clairement, on modifie les prénoms de ceux qui nous appellent du Burundi. Vous comprenez, vous, la colère d'Olivier, qui finalement ne vit pas au Burundi. Il vit en République démocratique du Congo, il est congolais. Mais il voit bien que la situation dans votre pays risque d'avoir un effet boule de neige sur l'ensemble de la sous-région. Et à l'instant, Olivier critiquait la négligence de la communauté internationale. Vous partagez ce sentiment? Vous avez le sentiment vraiment que l'ONU, les grandes puissances ne font pas suffisamment pression?
Bon, je partage parfaitement ces propos. Je suis d'accord avec ça, ce qu'il vient de dire. Personnellement, je soutiens les manifestations, même si je n'ai pas descendu dans la rue pour manifester, c'est que j'ai peur des représailles, de la répression des manifestants. Et comme il le disait, je soutiens qu'il y a eu assez de condamnations, assez de déclarations de la part de la communauté internationale, mais j'estime qu'on devrait davantage faire une forte pression et je dirais même assez de paroles et place à une action.
Parce oui, que mais place à l'action, par exemple, la Belgique est le premier bailleur bilatéral du Burundi. Lorsque ce pays dit « nous arrêterons notre aide directe si jamais il y a un troisième mandat », ça c'est une pression sérieuse.
C'est une pression sérieuse, mais il faudrait davantage de pression, non seulement de la Belgique, mais de l'ONU, des États-Unis, de toute l'Union européenne, parce que il sait pertinemment qu'il n'a pas le droit d'obliger ce troisième mandat. La Constitution et les accords d'Arusha sont clairs là-dessus. C'est un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, maximum 10 ans, peu importe le mode d'élection.
Ouais, ça c'est là. Alors on va pas rentrer dans la polémique de l'interprétation de la Constitution et des accords d'Arusha. C'est vrai que les accords d'Arusha qui ont mis fin à la guerre civile précisent 2 mandats de 5 ans, mais la Constitution dit 2 mandats de 5 ans au suffrage universel direct. Alors que Pierre Nkurunziza en 2005 n'a pas été élu par le peuple, il a été élu par le Parlement, donc au suffrage universel indirect. Et donc ses partisans estiment que son premier mandat n'entre pas dans le cadre de l'article 96. On va pas lancer le débat sur cette interprétation de la Constitution. Seulement, Jean, le président a annoncé un report de quelques jours des élections législatives. Est-ce qu'il faut aussi repousser l'élection présidentielle ?
Oui, et je considère que même les 10 jours pour les élections législatives et communales ne sont pas suffisants. Parce que, est-ce que le report a été nécessaire ? Ça, c'est évident, c'est incontestable. De combien de jours, ça c'est discutable parce que est-ce que les 10 jours suffisaient pour que le climat politique soit assaini au Bujumbura? Parce que le contexte sécuritaire ne permet pas qu'il soit organisé des élections effectivement libres, transparentes et apaisées et qui incluent tout le monde.
Ouais. On aura l'occasion évidemment dans les prochains jours de revenir sur la situation au Burundi en organisant de nouveau des libres antennes. Merci à tous les deux, Jean de Bujumbura, Olivier de Kinshasa, d'avoir contribué à la réflexion ce matin. Abdoul nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Abdoul.
Bonjour RFI.
Alors dans la libre antenne, vous souhaitez nous interpeller vous sur l'épidémie de méningite au Niger. Depuis le début de l'année, plus de 350 personnes sont mortes. Et vous ne comprenez pas, Abdoul, que les autorités n'aient pas anticipé cette épidémie.
Absolument, Juan. J'avais suivi plutôt la semaine dans l'émission consacrée à ce sujet. Un médecin de la santé publique du Niger qui était intervenu, mais je suis resté sur ma faim. Moi, je suis né et j'ai grandi à Niamey au Niger. Je vis en ce moment au Burkina Faso. Donc, c'est un phénomène que je connais très bien depuis que j'étais à l'école primaire. Mm-hmm. Il y a tout ce que nous appelons ici l'Armatan, qui est connu de tous les pays sahéliens, aussi bien le Niger, le Burkina que le Mali, où entre décembre et mars, nous avons des grands vents de poussière qui viennent du nord et qui sont propices à la propagation de virus tels que celui de la méningite.
Ouais. C'est vrai que cette épidémie se déclare particulièrement pendant la saison sèche, lorsque commence à souffler l'Harmattan, hein, ce vent qui est chaud, qui est sec et qui est chargé de poussière et qui donc fragilise les muqueuses de l'appareil respiratoire, d'où l'apparition d'épidémies de méningite en cette période de l'année. Donc vous dites les autorités savaient, donc elles auraient dû anticiper et prévoir.
Oui, écoutez, moi j'ai une trentaine d'années et depuis que je m'en souviens, chaque année à la même saison, ce phénomène se reproduit. Il est aussi prévisible que l'été ou l'hiver ou l'automne en France. Donc, il est connu de tout le monde qu'on aura ce phénomène et qu'il est suivi souvent d'épidémies de méningite, pour ne pas dire presque tout le temps. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas anticiper au bout de 10, 15, 20, 30 ans et que ça se reproduise. Et chaque année, il faut d'abord qu'il y ait des pauvres enfants qui meurent, que les gens se plaignent, que ça crée même souvent des troubles indirectement avant qu'on ne réagisse.
Ouais. Enfin, donc, en même temps, sans vouloir défendre absolument les autorités sanitaires du Niger, il y a eu, et il y a encore, sur le marché international, une pénurie de vaccins contre la méningite. Donc c'est compliqué de se procurer des vaccins. Et on sait que voilà, le vaccin est le moyen le plus radical de lutter contre la méningite. Donc quand il y a pénurie de vaccins, que faire ?
Justement, Juan, je me pose la question. Y a-t-il pas pénurie parce que d'autres pays ont anticipé plus tôt et ont racheté les vaccins? C'est plutôt une question de planification.
Oui, mais enfin,
c'était des années à l'avance.
Ouais. En même temps, il y a eu, il me semble que c'était il y a 3-4 ans, une grande campagne de vaccination destinée principalement aux enfants, mais aussi aux adultes. C'était il y a 5 ans, voilà, je retrouve le chiffre, vaste campagne de vaccination préventive, et théoriquement, ce vaccin, il a une capacité d'immunité allant jusqu'à 10 ans. Donc, voilà, les autorités pensent avoir pris quand même des mesures en menant cette campagne de vaccination préventive. En tout cas, Abdoul, merci de nous avoir interpellé sur cette actualité. C'est vrai qu'on n'en parlait plus ces derniers jours. On en a parlé, nous, cette semaine, parce qu'on avait une question d'auditeur, mais effectivement, on n'y est pas forcément revenu dans les journaux Afrique des RFI. Bonne journée à Ouaga, merci de nous écouter sur place. On reste en Afrique de l'Ouest, à Dakar. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour, Paul.
Vous réagissez, vous, à la décision du président sénégalais Macky Sall d'envoyer plus de 2000 soldats en Arabie Saoudite. Alors, c'est une décision qui fait polémique au Sénégal. Et vous-même, vous ne comprenez pas un tel déploiement.
Effectivement, Juan. En fait, c'est pour s'indigner de cette décision du président de la République, M. Macky Sall. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi le fait d'envoyer 2100 soldats sénégalais pour aller combattre au niveau de l'Arabie Saoudite. Pour une guerre qui n'a rien à voir avec notre pays. Donc c'est une guerre qu'on sait qu'il y a des relents politiques, une guerre entre chiites et sunnites pour le contrôle de cette zone.
Ouais. Excusez-moi Mamadou, le réseau téléphone n'est pas bon. Il était bon hors antenne et comme ça arrive parfois, dès qu'on vous passe à l'antenne, les lignes se dégradent. C'est indépendant de votre volonté et de la nôtre. On va essayer de vous rappeler, hein, puisque c'est un sujet intéressant, d'autant que l'opposition évidemment ne cesse de faire pression sur le chef de l'État après cette décision. En tout cas, Macky Sall cette semaine a été très clair. Il a dit le chef suprême des armées a décidé un point, un trait, pas de discussion là-dessus. Cela doit être entendu par tout le monde. Il en a marre, pour dire clairement les choses, de ce débat qu'il juge inutile et qu'il trouve malsain, même, ce sont ses mots, débat malsain entretenu à des fins politiques après donc l'envoi des 2000 soldats sénégalais en Arabie Saoudite. On me dit que la ligne s'est améliorée à Dakar. C'est une guerre donc qui ne concerne pas le Sénégal. En même temps, il ne s'agit pas d'envoyer les soldats au Yémen. Il s'agit d'envoyer les soldats en Arabie Saoudite, qui est certes en guerre au Yémen, mais les soldats sénégalais resteront en Arabie Saoudite.
Effectivement, Juan, même avec ça, nous, on ne comprend pas. Parce que vous dites que les 2100 soldats sénégalais vont être déployés au niveau de l'Arabie Saoudite, non au niveau du Yémen. Effectivement, mais la façon dont le projet a été montré aux Sénégalais, c'est faux. Parce que quand ils disent que l'Arabie Saoudite est menacée par des terroristes, des chiites qui veulent attaquer le Kaaba, non, je vous dis que c'est totalement faux. Parce que l'Arabie Saoudite n'est pas menacée directement. C'est une guerre politico-religieuse pour contrôler ce territoire, une guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et ça n'a rien à voir avec le Sénégal.
Est-ce que dit d'ailleurs une partie de la classe politique opposée au président Macky Sall, c'est pourquoi envoyer 2000 soldats en Arabie Saoudite alors que le Sénégal a par exemple décidé de ne pas participer à la coalition sous-régionale pour lutter contre Boko Haram, et que le Sénégal s'est contenté d'envoyer seulement 500 soldats au Mali, qui est pourtant un pays voisin. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Mamadou, merci à vous. On va passer à un tout autre sujet dans la libre antenne. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, et principalement à Beni, où depuis le mois d'octobre, des massacres sont attribués aux rebelles ougandais ADF. 350 personnes ont été tuées. Bonjour Jonas.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Kinshasa, et comme la population sur place au Nord Kivu, vous êtes excédé, vous avez l'impression que finalement les autorités, l'armée, se croisent les bras devant tous ces massacres.
Oui, toute la population congolaise, particulièrement la population de Beni, est extrêmement inquiète. On sent l'absence de l'autorité de l'État à l'est de notre pays. L'État est tenté de faillir à sa mission de protection des personnes, de leurs biens. Et c'est très inquiétant quand ceux qui sont censés vous protéger n'arrivent pas à vous protéger et que chaque jour, il y a toujours des morts dans notre pays. Nous sommes inquiets. On se demande à qui le prochain tour, à cette allure-là, où l'absence de l'autorité de l'État est remarquable sur le terrain. Ça ne peut que nous inquiéter à tout moment.
Ouais. Vous diriez qu'il y a une réelle crise de confiance aujourd'hui entre les services de sécurité et donc les autorités politiques et la population ?
Effectivement, il y a une crise de confiance. Vous n'avez qu'à voir la situation sur place à Beni. Il y a une ville morte qui a été décrétée sur place par la société civile. Il y a aussi une opération qui est lancée contre le paiement des impôts sur place. Alors, à cette allure-là, l'État est en train de perdre le contrôle d'une grande partie de ce pays. Mmh. Avec trop de promesses, le ministre de l'Intérieur y est allé par deux fois sans solution. Et nous sommes très inquiets là-dessus. On se demande si la mission de l'État, c'est là ou c'est autre chose.
Ouais, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Beni il y a quelques jours et bon voilà, il n'a pas annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité. Il a d'ailleurs appelé la population, écoutez bien, à faire confiance aux autorités. Donc merci Jonas de nous avoir appelé, de nous avoir interpellé sur cette actualité à Beni. Il nous reste encore 5 minutes, le temps de parler peut-être du Congo-Brazzaville où les autorités ont lancé à Pointe-Noire une opération pour lutter contre l'immigration clandestine. L'objectif, je cite, est d'assainir le pays de la délinquance sous toutes ses formes. Bonjour Claude. Allô, allô. Claude ? Bon, on a perdu Claude, tant pis.
Oui.
Alors, il faut faut être à l'écoute, Claude. Merci d'être avec nous. Vous nous avez appelé, vous souhaitiez commenter donc cette actualité. Vous saluez d'ailleurs l'initiative du gouvernement. Vous dites il est temps aujourd'hui de lutter contre le banditisme. Il y a trop d'immigrés dans notre pays, avez-vous dit. Bon, on a un problème avec Claude, on va essayer de gagner du temps. Sur le même sujet, Achille, bonjour. Alors, on a un problème de standard, décidément. Tant pis pour nous, on parlera peut-être de ce sujet la semaine prochaine. Alpha, bonjour.
Bonjour, Juan.
Et vous aurez le temps de vous exprimer, vous, sur la candidature annoncée pour l'élection présidentielle de l'ancien chef de la junte guinéenne, Moussa Dadis Camara. Vous êtes choqué, vous dites cette candidature est inopportune.
Oui, effectivement, cette candidature n'est pas la bienvenue. C'est inconcevable, c'est inacceptable et inconcevable d'accepter la candidature d'un ex-putschiste qui a un dossier aussi grave que le massacre du stade du 28 septembre 2009.
On rappelle que dans le stade du 28 septembre en 2009, plus de 157 personnes ont été tuées. On parle également de dizaines de femmes violées. Et ces événements, se sont déroulés alors que Moussa Dadis Camara était à la tête de la Guinée.
Oui, effectivement, même s'il n'est pas coupable aujourd'hui, mais il est présumé coupable. Sa candidature a un double risque. Risque d'impunité parce que voyant ses copains du CNDD et travailler avec le gouvernement actuel, il va se dire s'il le fait de la politique, peut-être rien ne l'empêchera d'occuper des postes stratégiques afin d'échapper les poursuites judiciaires dont il fait l'objet aujourd'hui. Ou bien il s'est inspiré du cas kenyan en disant que s'il fait de la politique comme Uhuru Kenyatta, il se peut qu'un jour que la CPI dit « Ok, c'est bon, on peut laisser, on n'a pas de preuves suffisantes qui l'inculpent. »
Oui, mais enfin, à la différence de Kenyatta, c'est qu'aujourd'hui, Kenyatta est président du Kenya. Moussa Dadis Camara, pour l'instant, il n'est que candidat annoncé.
Oui, ouais, mais rassurez-vous que si jamais on valide sa candidature, rien ne l'empêchera avec ses anciens membres du CNDD de faire dépasser par tous les moyens pour accéder au pouvoir. Mmh. Ça, c'est un risque. Maintenant, risque d'affecter le climat social parce que presque tous les Guinéens sont victimes, soit directement ou indirectement. Avec plus de 100 femmes violées, plus de 80 portées disparues et plus de 150 morts, on ne peut pas accepter qu'un ex-putschiste qui était aux commandes à l'époque se présente comme candidat.
Ouais. On rappelle quand même que cet ancien putschiste, devenu ensuite président de la transition, vit aujourd'hui en exil au Burkina Faso. Il n'est pas physiquement présent en Guinée. En tout cas, c'est vrai que cette candidature risque peut-être de bouleverser un peu l'échiquier politique, notamment en Guinée forestière. On suivra de près, évidemment, la suite. Merci Alpha, bonne journée à vous. Merci à vous tous de votre fidélité. Lundi, on parlera de cette décision du Parlement européen d'imposer à toutes les entreprises qui importent ou qui utilisent certains minerais qu'ils ne proviennent pas des zones de conflit. Leur commerce, vous le savez, est susceptible de financer les